France Culture.
France Culture, être et savoir. Louise Touraine.
Bonjour et bienvenue dans Être et savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Aujourd'hui, quelle place pour la littérature jeunesse à l'école ? Tous les ans, l'énorme événement qui est devenu le Festival du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, à Montreuil, met la littérature jeunesse sur le devant de la scène. Fort bien, mais quelle est sa place à l'école ? Comment y est-elle médiatisée, utilisée ? Quels sont les outils pour s'en emparer ? Dans quelques instants, nous évoquerons le travail des formateurs en littérature jeunesse. Oui, ça existe, par exemple avec la diffusion de listes et recommandations dans le premier degré, et ce sera avec Christophe Léculé. Mais pour commencer, je vous propose un entretien avec Laetitia Perret, maîtresse de conférences en littérature et didactique du français à l'Université de Poitiers. Laetitia Perret a co-dirigé l'ouvrage « L'extrait et la fabrique de la littérature scolaire », c'est aux éditions Peter Lang, et nous avons enregistré cet entretien le 14 novembre, ici à la Maison de la Radio. L'enseignante y introduit une mise en perspective assez passionnante, une mise en perspective historique de la place de la littérature à l'école. Ensemble, nous avons commencé par réfléchir au statut qui occupe l'œuvre littéraire. Est-ce qu'on a toujours étudié des œuvres complètes, des livres en entier en français ?
Alors, les œuvres complètes, non, en fait, c'est pas du tout une lecture qui remonte à longtemps, parce que pendant très très longtemps, je vais remonter au début du 19e, hein, parce que c'est la période que je connais le mieux, mais c'est déjà le cas auparavant, on considère que la lecture de fiction, c'est une lecture qui est potentiellement dangereuse. Exactement comme maintenant avec les jeux vidéo. C'est-à-dire que l'immersion fictionnelle, c'est quelque chose qui peut créer des mauvais comportements. À partir du moment où on craint ça, on ne peut pas donner à lire des œuvres complètes aux adolescents. Là, je parle du lycée. On ne peut pas donner d'œuvres complètes à lire aux adolescents, puisqu'on a cette peur de contamination, de mauvais comportements. Donc, il y a quelques œuvres complètes, mais c'est les rares œuvres complètes dont on pense qu'elles sont lisible intégralement, parce qu'il n'y a aucun risque en termes de mauvais modèle moral ou de mauvais modèle d'écriture.
Par exemple ?
Alors, les œuvres complètes qu'on peut lire, c'est le Télémaque de Fénelon, donc un chouïa oublié, donc hein, c'est le parcours d'un jeune homme qui est le Télémaque, hein, le fils d'Ulysse, qui est guidé par son mentor dans son parcours de vie. Donc ça, c'est une œuvre du 17e. Ensuite, on a ce qu'on appelle les œuvres, les pièces saintes de Racine, Athalie, tout ça, qui avait été joué à Saint-Cyr auprès des demoiselles de Saint-Cyr. Donc la même chose, pas trop de risques. Le reste, honnêtement, ça ne peut être que des extraits.
Pardonnez-moi, Laetitia Perret, mais est-ce qu'on sait, en faisant des recherches, comme les recherches que vous menez, si c'était difficile pour les élèves du début du 19e siècle de lire des œuvres du 17e siècle ?
En termes de langue ?
En termes de langue, en termes de longueur, en termes de propos, alors, comme ça l'est aujourd'hui peut-être pour des élèves de lire des œuvres du 19e siècle.
Bien sûr, c'est assez marrant. Alors, on le sait parce qu'on a le bac qui est inventé en 1808. Donc on a tout de suite des rapports d'inspection. Et on a des rapports d'inspection où on a ce discours de déploration qui est une caractéristique en fait du discours enseignant, de dire « Oh non, c'est pas possible, ils y comprennent rien, c'est complètement nul, ils mettent Voltaire au XVIIe siècle, ils ont aucune culture », à une époque où on a 2,5% d'une classe d'âge qui passe le bac. Hein. Donc c'est vraiment les classes les plus favorisées. Donc oui, ça a toujours été compliqué.
Donc on revient à notre idée de lire des œuvres complètes ou non. Si on lit pas beaucoup d'œuvres complètes, puisque ça fait vous avez donné deux exemples, ça fait peu. Que lit-on dans le secondaire, par exemple, dans cette école du 19e siècle qui peu à peu devient l'école de tout le monde ? Parce que s'il y a peu de bacheliers au début du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, et puis avec Jules Ferry, on va vers l'école communale pour tous, qui a été l'école des hussards noirs. Alors c'est aussi une légende scolaire, mais voilà, c'est ça qui se construit, et ça se construit aussi avec un enseignement des lettres.
Alors, juste une petite nuance, pour le lycée, ça va rester quand même très très marginal, parce que je crois qu'à la fin du 19e, on est à 5% d'une classe d'âge. Hein. La massification de l'enseignement, c'est tout récent, hein, c'est les années 1980. Mais en tout cas, ce qu'on lit au lycée à cette époque-là, ce sont donc des manuels qui sont des recueils d'extraits. C'est la seule chose qu'on propose aux élèves, et donc des recueils d'extraits qui vont évoluer dans le temps en fonction de leur finalité scolaire. Voilà. C'est pas, va pas être tout à fait les mêmes. On va pas les étudier de la même façon.
Les finalités scolaires de l'enseignement des lettres, est-ce que c'est, et ça pose de bonnes questions hein, pour l'époque actuelle, est-ce que c'est la structure de la langue, apprendre finalement ce qu'est le français, comment on doit l'écrire aussi, ou est-ce que c'est la littérature en elle-même, et à quel moment la littérature pointe davantage le bout de son nez, c'est-à-dire le style, l'histoire, le fait d'avoir un auteur à étudier avec son statut d'auteur qu'on admire. Je pense en particulier à un auteur qui est très très présent dans l'histoire scolaire, c'est Molière. Molière, ça fait longtemps qu'on l'étudie et on l'étudie toujours, même si c'est pas forcément les mêmes pièces, par exemple qu'au début du 20e ou au milieu du 19e.
Alors, en ce qui concerne les auteurs qu'on lit et comment on les lit et la littérature, ce qui est important dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, pour qu'on enseigne la littérature, il faut que la littérature, elle existe comme notion scolaire. En réalité, cette notion-là, elle va apparaître plutôt sous la Troisième République. Avant, on est plutôt dans ce qu'on appelle un enseignement de la rhétorique, et on est dans ce qu'on appelle les belles lettres. Parce que la notion même de littérature, c'est quelque chose qui se construit. Et cette notion de littérature, elle apparaît plutôt à la fin du 19e, en tout cas à l'école. Et donc, auparavant, ce qu'on va lire, c'est, on lit avec deux finalités, en réalité, jusqu'en 1880. Une finalité d'éducation morale, et une finalité d'imitation de l'écriture. Donc on va avoir des manuels qui sont des manuels avec des finalités d'écriture qui vont être classés en des catégories comme tableau, narration, lettres. Enfin, par exemple, une lettre de Christophe Colomb à la reine d'Espagne dans la catégorie lettres, où on va avoir quelques lettres de Madame de Sévigné, qui est une des rares autrices enseignées à cette époque-là. On va avoir des lettres de Voltaire, si je prends la rubrique lettres. Et les élèves, on leur demande d'écrire, bah, vous avez découvert l'Amérique, écrivez une lettre à la reine d'Espagne. Voilà. Et ça, c'est jusqu'en 1880. Et après 1880, c'est là où la littérature, au sens que vous décrivez, va vraiment apparaître, de façon très progressive, hein, parce que ça se met en place sur 40 ans. L'école, c'est des longs processus. Hein. C'est vraiment en 1920 que ça s'installe. Et c'est là où apparaît l'exercice de l'explication de texte et de la dissertation. Et donc là, les œuvres, on va les lire pour expliquer un auteur. Et on va avoir la dimension biographique, le style, la structuration du texte, le plan, bon, qui apparaît un peu plus tard, ce genre de choses apparaît plus tard. Et donc là, si je reprends par exemple Voltaire, c'est là où on va commencer à travailler ses contes. Les contes voltairiens, ils n'existent pas scolairement avant les années 1920.
Ce qui est à la fois ancien et relativement récent. En tout cas, Voltaire a attendu longtemps avant que Candide, par exemple, soit lu en tant que tel.
C'est ça.
Ça n'a pas toujours existé.
Ah non, avant on l'étudiait, mais étudiait des œuvres oubliées qui sont son théâtre, Zaïde, Mérope, hein, je pense que plus grand monde les connaît.
Je ne connais pas.
Bah voilà, ce qui est normal, puisque c'est important ce que vous dites. L'école est quand même un lieu qui permet... On connaît Voltaire grâce à l'école, faut pas se leurrer en fait. Et donc, évidemment qu'on connaît le Voltaire de l'école. Donc, votre génération et la mienne, c'est Candide. La génération du 19e, c'était Mérope, etc. Donc, ses tragédies, c'était ses poésies, la Henriade, son grand poème épique, c'était sa correspondance et parfois quelques poèmes un peu légers.
Je crois qu'aujourd'hui, on le connaît aussi beaucoup pour l'affaire Calas, et donc des lettres, et puis sa défense de la liberté d'expression, puisque finalement, un auteur, aussi ancien qu'il soit, est toujours dans... notre époque, et pas forcément son époque, même si un travail pour comprendre évidemment ce qu'il a pu représenter en son temps. Je reviens sur mon idée de lecture d'œuvre complète, d'un roman ou d'un recueil de poésie. Ça va arriver petit à petit, même dans l'école primaire, élémentaire, avec des œuvres jeunesse, mais là c'est très nouveau, et ça mêle deux sujets que je trouve très intéressants. Un, la place de l'auteur en tant que tel, on y revient, de l'auteur même pas forcément hyper célèbre, mais comme quelqu'un qu'on reconnaît comme l'auteur d'une œuvre qu'on étudie en entier, ça veut dire quelque chose. Et puis deuxièmement, la place de la littérature jeunesse qui va arriver à l'école. Alors tout ça, comment ça se construit dans le temps, Laetitia Perret ?
Alors, la littérature jeunesse, on va prendre comme définition que c'est une œuvre vraiment littéraire écrite à destination du jeune public, parce qu'il faut être sûr de quoi on parle. Alors la littérature jeunesse, elle apparaît... dans le courant du 19e siècle pour les jeunes enfants, d'une façon vraiment différente du secondaire, avec deux choses. Alors, on a toujours cette méfiance à l'égard de la fiction. Ça reste à l'école primaire. Mais on va trouver comme solution pour les jeunes élèves de leur faire lire des œuvres complètes. Eux peuvent en lire un peu plus probablement. Et c'est ce qu'on appelle des fictions assez peu immersives. Non, c'est des fictions où il n'y a pas trop de danger. Et donc, par exemple, Robinson Crusoe va avoir un succès fou. Hein, et donc, on va avoir ce qu'on appelle des Robinsonades. Donc, on va avoir plein de Robinsonades. Il y en a pour les jeunes filles, c'est hyper marrant. Parce que pareil, les jeunes filles, c'est un peu comme les jeunes enfants. Hein, on est encore plus prudent à leur égard, quand même. Hein, parce que les mauvaises...
Donner de mauvaises idées.
Ah bah ouais, les mauvais modèles, pour les garçons, c'est compliqué, mais pour les filles, encore plus. Et donc, les filles, par exemple, il y en a, c'est le Robinson des demoiselles. Et en gros, elles arrivent sur une île, et il faut donc qu'elles se débrouillent. C'est des bouquins très importants, les Robinsonades, parce que ça permet de montrer aux enfants comment on peut développer des techniques, etc. Et donc, les jeunes filles, elles chassent des tortues, en fait. Ça va pas trop vite, donc elles peuvent y arriver. Donc ça, c'est assez drôle. Ah ouais, non, c'est le Robinson des demoiselles, il est absolument génial, ce bouquin. Et donc, il y a les Robinsonades, et il y a des contes moraux. Et donc, si je bascule côté école, les livres qui sont proposés aux élèves, donc à partir de Ferry, hein, parce qu'auparavant c'est quand même très hétérogène, quand il y a un programme et qu'on a vraiment des manuels nationaux qui arrivent, là ce sont des historiettes morales qui sont écrites en général par les auteurs et les autrices de manuels. Typique, c'est par exemple Fanchon veut monter à Paris, elle veut quitter la campagne... elle veut monter à Paris, il va lui arriver des tas de mésaventures terribles, ce qui l'amène à retourner dans sa campagne, ce qui montre que, c'est une des caractéristiques de la Troisième République, quand même, la promotion sociale, faut être très prudent avec, hein, chacun doit rester à sa place. Donc ça, c'est ce qu'on a beaucoup dans les manuels pour enfants de la Troisième République, et on a des histoires plus longues, tout de même. Et enfin, dernière chose, on a ce qu'on appelle les romans scolaires, et les romans scolaires, c'est donc, par exemple, le tour de la France par deux enfants, qui, à travers une longue narration, permettent aux enfants d'apprendre, en fait, tous les domaines de savoir de l'école primaire. Voilà, c'est assez différent.
On peut redire le tour de la France par deux enfants.
Ouais.
C'est moi ce que j'ai toujours entendu, c'est une femme qui l'a écrit, Augustine Fouillé-Thuiry, publiée sous le pseudonyme de G. Bruno.
C'est assez fréquent. Hein.
C'est assez fréquent. Alors c'est un livre qui doit édifier un peu les consciences, faire connaître la France aux élèves de la Troisième République. Mais c'est hyper intéressant en fait ce que vous dites sur la littérature jeunesse, parce que Robinsonade, moi élève dans les années 80, ce que j'ai lu c'est Vendredi ou la vie sauvage.
Ah bah oui, bien sûr.
De Michel Tournier, ouais. Qui est un classique scolaire absolu. Mm. Enfin, absolu, je ne sais pas, parce qu'il aurait été inimaginable de lire un tel texte 20 ans, 30 ans auparavant.
Bien
et
sûr.
Je ne sais pas si on le lit encore aujourd'hui.
Non, je pense qu'il est... moi, je l'ai lu aussi. C'est le début de l'entrée de la littérature jeunesse pour les collégiens. C'est un livre qui est extrêmement important parce qu'il arrive dans le collège des années 80. Ce qui va se passer après, c'est si on revient sur l'école primaire, le point de bascule dans les pratiques de classe, je pense que dès les années 80-90, les professeurs des écoles, donc à l'époque instituteurs et institutrices, font arriver la littérature jeunesse dans les classes parce qu'elle explose éditorialement en fait. Elle arrive de l'univers anglo-saxon et elle expose éditorialement. Et donc les enseignants vont s'en saisir et les enseignantes, et comme ils et elles s'en saisissent, progressivement l'institution va suivre. Parce que ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que l'école a assez souvent tendance à suivre les pratiques des enseignants. C'est un peu les moteurs, hein, quand même, hein, des modifications. Hein. Plus que l'institution. Hein. Quand l'institution modifie, ça marche plus ou moins bien. Et donc, l'institution, en 2000, va dire que à l'école, et notamment à l'école maternelle, on étudie de la littérature jeunesse. C'est 2000. Je crois que c'est 2001 ou 2002, j'ai oublié. Donc, elle arrive à ce moment-là à l'école. Et là, il se passe autre chose qui est effectivement... Là, on est dans de l'œuvre complète. Quand on lit un album de Lit et Jeunesse, on le lit comme une œuvre complète. Et les enfants de l'école primaire, ils ont un accès à l'œuvre complète qui s'amenuisent au cours de la scolarité, parce qu'effectivement, une littérature par extrait va prendre beaucoup plus de place à partir du collège et explose au lycée, où au lycée, on est quand même essentiellement dans l'extrait.
Puisque c'est le principe du bac français.
Bah, c'est le principe, bien sûr.
On étudie des extraits qu'on va présenter à l'oral du bac qui... maintenant, il va y avoir une épreuve de mathématiques en première, mais qui est un baptême du feu pour ceux qui le passent. À l'école élémentaire, il y a aussi un auteur très important, Marcel Aimé, on parlait de contes moraux. Ouais. Là, se forge aussi l'idée qu'on est dans une littérature qui ne parle pas forcément du temps présent. Et il a été étudié très longtemps. Je ne pense pas qu'il le soit encore, puisque Marcel Aimé, c'est assez violent d'abord, ouais. Les contes du chat perché, mais pour moi ce sont des très grands souvenirs de lecture et on va plutôt glisser vers des autrices type Marie-Aude Muraille qui sont très contemporaines, qui ont une autre langue. Est-ce que ça veut dire que le rapport à la langue de l'école change, se modifie, qu'aujourd'hui, parce que moi je parlais pas comme parle Marinette dans les contes du chat perché, hein. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on enseigne aussi, c'est une langue plus contemporaine, une langue que les élèves parlent eux-mêmes ou dont on pense qu'ils peuvent davantage se saisir, puisque finalement c'est toujours une projection, sachant que les élèves sont évidemment pas du tout tous les mêmes et n'ont pas du tout tous la même relation à la langue de par leurs milieux sociaux, de par leur famille, leurs habitudes, etc.
Alors c'est marrant ce que vous dites parce que moi les contes du chat perché c'est aussi un grand moment de lecture, mais on voit très bien si vous voulez qu'on a des cultures assez générationnelles en fait. Donc on a, c'est effectivement Marcel Aimé, il est très très important à une certaine époque. Et effectivement quand on le lit maintenant, moi quand je relis maintenant, moi je suis aussi la génération Pagnol, le château de ma mère, etc. Là j'ai relu. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu lire ça à 11 ans, en fait? Comment, moi, j'ai pu comprendre cette langue de Pagnol, qui est d'une complexité, qui est extrêmement écrite? Donc, je pense qu'effectivement...
C'est génial.
Ah, c'est magnifique.
Enfin, le château de ma mère, et puis c'est une grande émotion pour tous ceux qui l'ont lu. Et vous trouvez que c'est compliqué?
La gloire de mon père, quand je le relis là, je me dis, comment j'ai pu lire ça à 11 ans? Honnêtement... Je pense que c'est des histoires... C'est très difficile de répondre à votre question. Je vais dire deux choses. Je pense que la première, c'est que le rapport à la langue, ce sont des choses qui se construisent de façon assez intime, je pense, et qu'il y a des choses un peu mystérieuses qui font que certains enfants vont pas avoir de barrière linguistique quand ils lisent. Moi, c'est mon cas. Je ne comprends pas pourquoi j'avais une capacité d'immersion fictionnelle qui n'était pas gênée par la barrière de la langue. Moi, je lis La Princesse de Clèves à 16 ans, pratiquement comme on lit un Harlequin. La langue me gêne pas. Je suis à fond dans l'histoire. Pourquoi j'ai ça, je sais pas d'où ça vient. Donc c'est des choses assez intimes. La deuxième chose, c'est que effectivement, la littérature jeunesse, la langue a beaucoup changé, mais ça reste une langue littéraire en réalité. Ça reste de l'écrit, mais c'est effectivement un style qui a énormément changé parce que le style change. La façon de parler, votre façon de parler, ma façon de parler, la façon de parler des nouvelles générations. La langue est vivante. Donc je pense que c'est plutôt lié à ça. Elle reste littéraire, mais elle est littéraire telle qu'est une langue littéraire maintenant, qui n'est pas celle d'il y a 20, 30, 40 ans.
Ah oui, pour écrire comme Marie-Aude Muraille, Marie Desplechin, il faut déployer un certain talent, d'autant plus qu'on cherche là aussi à captiver les enfants. Et cette idée que ça doit plaire aux élèves à tel point que, par exemple, des enseignants en élémentaire mais aussi au collège proposent parfois aux élèves de choisir ce qu'ils lisent avec des œuvres jeunesse et des œuvres plus classiques du répertoire scolaire un peu ancien. D'où ça vient cette idée que ça doit plaire, qu'on doit éprouver du plaisir avec la lecture alors que, bon, on est dans le travail scolaire, enfin, et que bon, c'est drôle ce que j'ai dit, parce que d'abord, pourquoi ça s'opposerait? Donc, plus d'élèves doivent éprouver du plaisir, parce que ce qu'on veut surtout, c'est faire lire.
Alors, exactement, ce que vous dites, c'est important, c'est la question de la motivation. Et ça a une histoire aussi. Donc, ça a une histoire parce que dans les années 1950, c'est le moment où on commence à avoir des enquêtes, en fait, sur la lecture, le niveau de lecture, et on commence à se rendre compte que des élèves ne lisent pas. C'est le moment où on commence à avoir les enquêtes sur le niveau, et à dire, ah, mais il y en a certains qui n'ont pas un bon niveau, etc. Et donc, c'est un point de bascule absolument capital. Et ça, c'est, très important pour le premier, mais pour le second degré aussi. On va passer de ce que je vous disais sur ces extraits qui sont là pour comme modèle moral et comme modèle d'écriture et comme modèle littéraire. Donc cette idée que la littérature sert à former le goût et à former une morale, donc il faut sélectionner ce que vont lire nos élèves. On bascule à ce moment-là, au milieu du XXe siècle, à il faut qu'ils lisent, qu'importe ce qu'ils lisent du moment qu'ils lisent.
Et on est encore dans cette idée.
On est complètement dedans encore maintenant. Et donc ça, et c'est à partir de cette question, de ce moment-là, que se pose la question du plaisir de lire et du goût de lire. Et vont apparaître d'ailleurs des collections de manuels du primaire qui s'appellent le goût de lire, le plaisir de lire, parce que ça devient essentiel. Et pour finir de répondre à votre question sur on laisse des élèves choisir. Là, il y a probablement un leurre qui est que les élèves, ils savent très bien qu'on est à l'école. Et que la pratique de lecture privée et la pratique de lecture scolaire, ça c'est les sociologues de la lecture l'ont très bien montré, ça n'est pas la même chose. Lire à l'école, lire à la maison, ça n'est pas pareil. Choisir un livre à l'école, choisir un livre à la maison, ça n'est pas pareil. Les enfants sont rarement dupes. Si je reprends les jeux vidéo, c'est la même chose. Oui, on va faire un truc super motivant et on va leur faire faire du jeu vidéo en classe. C'est en classe. C'est pour apprendre quelque chose. C'est pas, et la lecture, la conception de la lecture en France reste une conception qui n'est pas si immersive que ça dès qu'on quitte les petites classes. La lecture offerte pour les petits, c'est ce qu'on appelle, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la lecture plaisir ou la lecture offerte à l'école primaire qui disparaît au collège. Ça veut bien dire qu'elle devient autre chose assez rapidement. Elle devient une lecture travail à finalité d'apprentissage de savoir. Et en même temps, c'est normal, c'est le rôle de l'école. Hein.
Avec évaluation, parce que le travail, il est évalué à l'école. Et en même temps, tous ces dispositifs type quart d'heure de lecture quotidien pour pousser les élèves à lire, parce qu'on pense, je pense qu'on le croit tous, et à raison, qu'il y a un bénéfice à lire, un rapport à son intériorité, enfin, on pourrait en parler aussi, mais est-ce que l'école a encore des objectifs culturels à faire connaître des grands auteurs de notre patrimoine, français ou international?
Alors oui, bien sûr, l'objectif d'acculturation reste absolument fondamental à tous les étages de la scolarité, tout particulièrement à partir de ce qu'on appelle le cycle 3, hein, donc le CM1, on commence à distinguer, si vous voulez, ce qu'on appelle la littérature patrimoniale. Donc c'est vraiment la littérature qui relève du patrimoine. À l'école primaire, on a Hugo. Hugo, il est encore pas mal là. Et Hugo, c'est un auteur absolument fascinant parce qu'il fait pas. Il y a pas beaucoup d'auteurs qui sont étudiés à tous les étages de la scolarité. On a Hugo, on a La Fontaine, Molière moins maintenant parce que Molière on le fait pratiquement plus à l'école primaire. Il a longtemps été à l'école primaire, il a disparu de l'école primaire. Cet objectif culturel, il est absolument capital. Après, la vraie question, et c'est une question que se pose ce qu'on appelle la didactique de la littérature, c'est comment faire pour qu'elle reste en mémoire, ces œuvres. Parce que ce qu'on sait très bien, Lançon, qui est un des grands historiens de la littérature et qui pense l'école sous la Troisième République, il écrit, peu après 1890, ou c'est au moment de la réforme de 1902, je sais plus tellement, il dit, mais en fait, les élèves, on leur fait lire des œuvres de façon tellement formatée qu'ils les oublient. Donc cet objectif, cette finalité d'apprentissage culturel, elle est là, mais comment on s'y prend pour que ça reste? Et là où vous avez parfaitement raison, c'est que pour que ça reste, il faut qu'il y ait une émotion. Il faut que Victor Hugo y m'ait ému. Et pour que Victor Hugo m'ait ému, le format explication de texte, avec la petite fiche que j'apprends par cœur pour sortir ce qu'on appelle le discours qu'attend l'école, ce qu'on appelle un discours second. L'école, elle attend un discours. L'école attend un discours qu'elle a créé elle-même, puisque c'est un lieu qui crée ses savoirs, elle crée ses discours qui vont avec ses savoirs. Donc si on fait ça pour avoir la bonne note, bien entendu que demain dès l'aube va pas créer des souvenirs émotionnels très importants, en fait.
Mais si on l'apprend par cœur, parce que cet apprentissage de la poésie, des poésies par cœur, qu'aiment beaucoup hein, les élèves. Mmh. Hein. Alors, il y a des auteurs du patrimoine scolaire qu'on connaît surtout pas. Enfin, je pense à Maurice Carême, mais c'est aussi Jacques Prévert, dont tant d'écoles portent le nom. Et puis, bien sûr, Victor Hugo, quand on contextualise à Villequier, Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. Évidemment qu'on parle d'un épisode tellement émouvant de la vie de Victor Hugo que ça peut accrocher les élèves. Et d'apprendre ce poème par cœur, on peut s'en souvenir peut-être toute sa vie pour certains. Enfin, je sais pas vous. D'ailleurs, les
Ah bah moi, vous le, moi en sortant de l'école, nous avons rencontré Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, à une passante de Baudelaire. Oui, bien sûr, moi je le connais par cœur. Mais moi, j'ai développé un rapport à la littérature. Où l'école a joué un rôle. Donc ça, c'est mon histoire intime, en fait. Donc elle peut pas être un exemple pour tout le monde, loin de là. Je crois que les grands lecteurs, les grandes lectrices bouleversées par la littérature, il faut qu'on admette qu'on n'est pas très nombreuses et nombreux. Et on a toujours été peu nombreuses et nombreux. Donc apprendre par cœur un poème, si c'est dans la panique de retenir plein de vers pour être noté, parler devant les copains et les copines qui risquent de ricaner, c'est tout sauf un bon souvenir. Et c'est un truc qu'on met très 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 loin dans sa mémoire pour l'oublier. Donc vous savez, ce qui est très important, c'est comment on le fait, pourquoi on le fait, dans quel climat de classe on le fait. Et plus c'est formaté à visée d'évaluation, plus on peut avoir des élèves en face qui vont être en panique, notamment avec les angoisses de performance, dont on sait qu'elles s'aggravent maintenant, même chez les très très jeunes élèves. Donc c'est la question qui est vraiment une question de didactique de la littérature. Hein. La littérature, c'est un art. Est-ce que l'école est en capacité de l'enseigner comme telle, à savoir comme finalité première d'éveiller des émotions ?
Est-ce que ce côté émotionnel, qu'on travaille sur des œuvres ou des extraits, qu'on apprenne des poèmes par cœur ou non, fait de la littérature une discipline féminisée, puisque les professeurs de lettres sont bien davantage des femmes, et les étudiantes aussi, bien davantage des femmes, et c'était pas le cas au 19e siècle. Alors, on étudiait, on l'a entendu, pas du tout de la même manière les lettres et la littérature. Et c'est devenu, au fil du 20e siècle, avec ce statut de l'œuvre et de l'auteur, et peut-être des émotions, un truc de fille.
Alors, c'est bien un truc de fille, ça a été un truc de garçon, tant qu'on avait de toute façon une éducation qui était bivalente à plusieurs niveaux, hein. Enseignement des filles, enseignement des garçons, qui n'était pas identique, et puis enseignement du primaire et enseignement du lycée, puisque le lycée n'est accessible qu'aux catégories les plus aisées pendant très très longtemps. Hein. L'ouverture du lycée, c'est quand même quelque chose d'assez tardif à toutes les populations. Et ça va se féminiser aussi parce que tant que la littérature est un élément de distinction scolaire, donc et un élément de sélection en fait scolaire, bah, c'est un truc de garçon. Les mathématiques arrivent. Et ça, c'est donc si la sélection se fait par les maths, les garçons partent vers les maths. Donc nous, il nous reste, à nous les filles, le truc qui est joli mais qui sert pas à grand chose, qui est la littérature. Donc ça se féminise, ça c'est probablement une des raisons. Hein. Donc féminisation dit dévalorisation, hein, il faut pas se leurrer, c'est encore le cas. Et ensuite, effectivement, à partir du moment où on a une approche qui est de l'ordre de l'émotionnel, on sait très bien, ça s'est archi montré aussi par la sociologie, que la verbalisation des émotions, l'acceptation de la sensibilité, la verbalisation de la sensibilité, les filles l'apprennent. Plus que les garçons à qui on apprend à justement pas verbaliser les émotions. Donc je pense que beaucoup de choses se jouent à ce niveau-là sur le fait que la littérature, oui, c'est un truc de nana, bien sûr. Et on sait très bien, par exemple, que les adolescents, les pratiques de lecture adolescente régressent, puisque les adolescents veulent au profit de ce qu'on appelle des sociabilités juvéniles. Ils préfèrent voir leurs copains et leurs copines, en gros. Et on sait que les différences, c'est des différences de genre. Les filles continuent à lire plus que les garçons. Évidemment, les différences de classe. Les filles des classes éduquées continuent à lire plus que les garçons, y compris des classes supérieures éduquées.
Laetitia Perret, puisqu'on parle de littérature et du statut, hein, de la littérature à l'école, jeunesse ou non, on discutait du statut de l'extrait, tout à l'heure on va y revenir. Mais est-ce que lire Les Misérables en version abrégée, est-ce que c'est lire l'œuvre ou non ?
C'est lire l'œuvre à l'école. Je suis obligée de... Enfin, je réponds par de façon tautologique. Oui, c'est lire l'œuvre telle qu'on la lit à l'école. Effectivement, alors je sais plus, moi, Les Misérables, j'ai lu super tard. Je sais plus, c'est 1500 pages, je crois. C'est monumental, en fait. Donc, c'est une œuvre...
Et avec des passages très très longs et des grandes, grandes, grandes digressions.
Hein. Ah bah oui, bien sûr. Bah, il y en a un, c'est génial, parce qu'il le fait. Il y en a un qui l'appelle, je crois, parenthèse. Il y a carrément un chapitre qui l'appelle parenthèse. Et donc, par exemple, il y a effectivement Les Égouts de Paris, qui est interminable. Moi, j'ai adoré. Mais en général, Les Égouts de Paris, tout le monde déteste. Moi, je ne sais pas pourquoi ça m'a plu. Mais c'est pas lisible scolairement. en œuvre intégrale.
Mais
c'est
alors pourquoi
impossible.
On décide de lire quand même? On préfère proposer une version abrégée et avoir lu, fréquenté Les Misérables et Victor Hugo plutôt que priver les enfants du peuple, les petits Français, de la connaissance du texte quand même. Parce qu'une version abrégée, c'est quand même le texte des Misérables. Ça veut dire que là, on choisit quand même de ne pas lire l'œuvre complète.
Mais je vous dis, une vraie lecture d'œuvre complète, je ne sais même pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs, mais on va dire on est sûr que les élèves ont lu du premier mot au dernier mot. Honnêtement, à part les albums de littérature jeunesse, on est pratiquement toujours dans de l'extrait. Ou alors peut-être, s'il y a des contes qu'on peut lire en entier, mais l'école, c'est un lieu de lecture de textes brefs, en fait. La lecture intégrale, elle peut porter que sur du bref. Ne serait-ce que parce que l'école, ça fonctionne par séance. Donc il faut que ça loge dans une séance, une lecture. On va pas passer une semaine à lire Les Misérables. Enfin, je veux dire, imaginez les parents d'élèves. Bon, allez, on se fait une semaine Les Misérables. On fait plus de mathématiques, on fait plus d'anglais, on fait plus d'éducation à
pourquoi
ceci,
pas,
à cela.
Si c'est juste une semaine.
Ah, bah alors, faisons la révolution, Louise, je vous en prie. Mais je pense que ça serait un peu compliqué, si vous voulez. Donc, ça tient dans une séance. Donc, on est forcément dans du bref. Et on est, la littérature jeunesse, un de ses avantages, c'est que comme c'est assez court, on va pouvoir le lire en 4, 5, 6 séances. Les Misérables. On est dans une immersion, j'en sais rien. Là, on se fait un petit projet d'école où on le démarre au CP et on le finit en CM2, en fait. Donc, évidemment qu'on est dans de l'abrégé. Et on est dans un abrégé qui est un abrégé scolaire. Pour quelle raison? Une des raisons, c'est bien entendu ce que vous dites, c'est la dimension patrimoniale. Il faut acculturer. Hugo reste un de nos auteurs majeurs. Donc, il faut acculturer Hugo. Donc, on va le lire par extrait, et on va lire des extraits qui sont des extraits dont on pense qu'ils parlent à des enfants. Parce que si on reste là dans cette idée d'un abrégé qui s'adresse à des enfants du primaire ou à des jeunes adolescents, on va choisir par exemple Gavroche, on va choisir les personnages enfantins, on va choisir Gavroche, on va choisir Cosette. Parce qu'il y a cette idée qu'on va s'identifier à ces petits personnages-là, parce que c'est un monument, Les Misérables. Donc on va pas faire la charge de Waterloo. Ça, on va le faire avec les lycéens. On va pas le faire avec des élèves de primaire. Donc ça révèle énormément de choses de ce qu'est l'école. Donc on va choisir les personnages enfantins et il y a largement de quoi faire avec Cosette et avec Gavroche. On va pouvoir faire une dizaine d'extraits et une lecture suivie qui sera forcément parcellaire. Mais là, vous avez aussi choisi une œuvre qui est tellement monumentale. Elle est pas scolarisable intégralement. C'est pas possible. Faut sélectionner. L'école est un lieu de sélection. Moi, je trouve que l'école, c'est pas un lieu de sélection. Elle devrait pas être un lieu de sélection des élèves les meilleurs et les moins bons. Mais c'est évidemment un lieu de sélection des savoirs qui s'adaptent à la fois au public qu'on a en face de soi, qui a un âge spécifique, et à des finalités que l'école a construites à un moment donné.
Vous avez dirigé un ouvrage entièrement sur le statut de l'extrait littéraire dans l'enseignement. Est-ce que ça vous semble pertinent, et pourquoi oui et pourquoi non, d'étudier la grammaire et la conjugaison à travers des extraits littéraires? Parce que c'est vrai que c'est là qu'on peut trouver de jolis passés simples, des subjonctifs, des plus que parfaits, et tant de temps qu'on n'utilise pas tellement dans la vie courante. Ou est-ce que ça ne rend pas forcément service à la littérature, à l'intérêt pour la littérature et les auteurs-autrices?
Alors ça, c'est une question qui fâche. C'est compliqué de répondre. Je pense qu'il faut répondre en plusieurs étapes. Il y a une première étape qui est que la France est un pays qui est obsédé par l'étude de la langue. Les pays anglo-saxons, par exemple, ne le sont pas. L'idée qu'on va faire le cours de grammaire, etc., c'est quelque chose de... Alors je ne sais pas si c'est français ou si c'est latin. Donc dans les pays, je veux dire, de langue latine, mais ça n'est pas quelque chose qui est partagé, cette idée qu'il faut faire de la grammaire. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place sous la Troisième République, l'importance de la langue, de l'étude de la langue, de la connaissance du fonctionnement de la langue, c'est quelque chose qui est extrêmement important dès la Troisième République, et dès avant la Troisième République, il y a une citation que j'ai pas de tête, mais qui je crois que c'est de 1866, où il y a un inspecteur qui s'adresse au ministre de l'époque, et qui dit, non mais pourquoi on leur apprend tout ça alors qu'ils vont l'oublier? À quoi ça sert de savoir ce que c'est qu'un complément d'agent ou un attribut? Donc il y a la question de la finalité. Est-ce que c'est utile de savoir ce que c'est qu'un attribut, de savoir ce que c'est qu'un COD? Est-ce que ça sert à mieux parler et à mieux écrire?
COD, pour l'accord avec le verbe avoir au participe passé, ça sert. Mais c'est vrai que pour toutes les subordonnées, et pour l'avoir enseigné, d'abord les noms ne sont pas les mêmes, par exemple, pendant ma scolarité, donc c'est super compliqué. Bon, on peut se dire qu'on va l'oublier, mais on peut se dire que ça aide à structurer sa pensée, qu'on apprend des termes, tout comme quand on apprend des termes de la théorie littéraire pour analyser des textes et leur structure, leur forme littéraire.
Alors, dans ce que vous dites, il y a un truc qui est important, c'est la notion de la terminologie. Effectivement, une chatte retrouve pas ses petits, un professeur retrouve pas sa terminologie, parce qu'on a eu donc complément de verbe. Là, si je puis depuis 2015, on a eu complément de verbe. On est repassé à COD, et là on est revenu sur le COD. Là.
Oui.
Le COD, il est à nouveau in, mais il l'a pas été pendant un petit moment. Et donc, la terminologie est compliquée. Si vous voulez, c'est alors, l'accord du participe passé avec le COD, c'est pareil. Ce sont des sujets qui fâchent. Je crois pas qu'il y ait d'études là-dessus. Quel est le pourcentage de la population qui maîtrise l'accord du participe passé avec le COD? Les fleurs que j'ai cueillies, c'est IES. Qui le maîtrise? Quel est l'intérêt de le maîtriser?
Ah, je peux vous
Quelle
dire
est l'importance de le maîtriser?
Des auditeurs nous écrivent si on l'oublie dans les textes qu'on va publier. Parce que, alors, il faut dire que souvent on refait ses phrases et que quand on bouge les mots dans la phrase, ça s'accorde plus pareil, que même quand on connaît la règle, finalement, il y a des erreurs qui passent, parce que avec l'homophonie du français et tous ces « et » qui s'écrivent pas pareil, on croise plein de fautes tous les jours. Tellement de gens mettent « er », donc là, il y a même plus de questions d'accord.
Bien sûr, mais Les messages que vous recevez, c'est extrêmement révélateur du petit pourcentage de personnes dont nous faisons partie qui maîtrisent cet accord-là. Ils tiennent absolument, mais c'est, moi je pose la question, j'ai pas de réponse, puis c'est des questions qui énervent beaucoup, mais un savoir qui est maîtrisé par, je sais quoi, 5% de la population, et qu'on continue à enseigner. Qui sera toujours maîtrisé par 5% de la population, parce que peut-être que l'urgence, c'est une proposition, c'est de se dire, il y a l'accord du participe passé avec être, on le fait pas avec avoir, et basta. Si déjà ça s'est intégré, ce serait pas mal. Parce que ça l'est pas. Se focaliser sur un savoir maîtrisé par tellement peu de monde, alors que c'est chronophage et que ça empêche de faire d'autres choses, est-ce que c'est capital ou pas? Moi, c'est juste une question qu'on doit accepter de se poser, en fait.
Je reviens à ma question.
Oui.
Est-ce que la littérature est le support de idéal de l'apprentissage de la langue ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez étudié cette place de l'extrait littéraire qui est là, hein, à l'école, au lycée, et pas que dans les cours de lettres, hein, d'ailleurs, puisque en histoire aussi, on peut tout à fait être amené, bah, justement, on parlait de Voltaire tout à l'heure, à lire un extrait d'une pièce de Racine. Enfin, il y a tellement de d'auteurs et de possibilités de sortir leur texte pour
Alors ça a aussi une histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, cette importance qu'on accorde à la langue, ça a une histoire, puisque pendant très longtemps, les élèves, ils travaillent en fait sur la version latine. Et quand on travaille la version latine, on s'intéresse à la langue, forcément. On est obligé de s'intéresser aux mots, à leur orthographe, à la syntaxe, etc. Et ça, notre tradition d'importance qu'on accorde à la langue, elle vient de là. Donc effectivement, on est obsédé par la langue, et les premières explications de texte de la Troisième République, elles sont complètement axées sur la langue. Progressivement, on va s'intéresser à d'autres choses. Ce que j'en pense, moi, c'est que la langue française est d'une complication extrême, notamment orthographique, que l'enseignement de la grammaire, c'est très compliqué, notamment parce que y a plein de théories grammaticales qui parfois coexistent à l'école et qu'on est un peu perdu sur COD, complément de verbe, comment on le reconnaît, est-ce que c'est la question quoi, est-ce que c'est la question qu'il est déplaçable, pronominalisable par manipulation, etc. Donc c'est extrêmement compliqué, ça prend beaucoup de temps, et pour pouvoir le faire correctement, il faut prendre des petites phrases qui ciblent le problème grammatical. La littérature, le principe, c'est qu'elle est très créative au niveau de la langue. Donc les exemples qu'on va trouver dans des textes littéraires risquent d'être des exemples limites, des cas particuliers. Donc comment je fais pour enseigner la langue à travers une langue littéraire qui est souvent limite en termes de cas particuliers? Je suis souvent obligée de basculer sur des phrases qui sont, alors, et parfois extraits de littérature, mais c'est des extraits qui veulent rien dire. On va avoir « elle était jolie » entre parenthèses Balzac, on s'en fiche en fait là. Balzac est un porte-pas.
Et en même temps, c'est ce que fait le grammairien Grévis, enfin ouais. qui était ouais. belge et qui mobilise des exemples de issus de je sais pas Flaubert, ah oui. Proust, pour dire malgré que c'est ok. Bah insulter deux, ça se dit, parce que
c'est ça. Et
un auteur du 19e siècle l'a utilisé.
Bah bien sûr, parce que là, il légitime des pratiques qui, par exemple, syntaxiques, qui vont être considérées comme limites, histoire d'aller au coiffeur, aller chez le coiffeur. Si Balzac dit je vais au coiffeur, tout va bien, en fait. Mais je sais très bien que je suis en train de dire une monstruosité, hein, mais c'est pas grave. Ça, c'est légitimer la langue par la littérature. Mais il y a aussi l'inverse. Ce que vous dites sur Grévis, c'est Grévis, il pratique l'extrême. En fait, il va choisir
totalement.
Quelque chose qui illustre la norme. Et la norme, elle s'interroge. Le Grévis, c'est une langue qui est figée. C'est une langue qui n'existe plus, la langue de Grévis.
Ça montre aussi que, de tout temps, pour utiliser une expression que détestent les profs de philo, on a été créatif. Enfin, les auteurs ont pu utiliser la langue, la tordre, peut-être être créatif, et que ça pourrait être une possibilité laissée aux élèves. Je voudrais qu'on termine, Laetitia Perret, oui. sur les enseignants dont vous avez dit qu'ils étaient moteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers l'utilisation d'extraits, la mobilisation de nouveaux auteurs pour enseigner, pas seulement hein, la structure du français, mais les lettres, la littérature, ce qu'elle peut être. On perçoit, vous percevez, vous les profs d'université qui étudiez aussi ça, hein, l'enseignement du français et des lettres, une créativité de la part des profs d'aujourd'hui, des enseignants d'aujourd'hui.
Bien sûr que les enseignants sont créatifs. Ils sont créatifs dans le cadre professionnel qui est le leur, qui est assez contraint. Et plus on monte en niveau, plus c'est contraint. Un enseignant qui fait, ou une enseignante qui fait passer le bac, va rester sur un corpus de textes et d'extraits dont il sait que le collègue en face qui interrogera sera pas surpris. Donc les collègues sont assez contraints de et puis sont contraints par les programmes aussi, hein. Donc il y a une créativité, mais dans le choix des corpus, plus on monte en niveau, plus c'est difficile. Je pense qu'il y a une créativité à l'école primaire, parce qu'il y a une liberté d'approche des textes, puisqu'il n'y a pas d'examen, en fait. Hein. L'examen, c'est quelque chose qui est compliqué, hein. Ça limite la liberté. Et ensuite, je pense qu'il y a une créativité qui est dans les approches. C'est-à-dire que si on commence à dire « je vais faire Bérénice de Racine », mais Bérénice de Racine, l'approche que j'adopte, c'est Titus, c'est une ordure qui quitte Bérénice parce qu'il veut le pouvoir, ou c'est quelqu'un qui dit « je ne peux pas changer la loi au moment où j'accède au pouvoir, je ne vais pas la changer, ça ne se fait pas ». C'est c'est un débat, ça. Il n'y a pas de réponse. Ou Madame Bovary, c'est une femme qui lutte pour sa liberté dans une société qui est le milieu du 19e, où c'est probablement la période la pire de domination et de coercition des femmes. Est-ce qu'elle lutte pour sa liberté parce qu'elle a envie d'avoir des amants, elle veut avoir des histoires passionnelles intenses et elle aime les jolies robes? Ou est-ce que c'est une courge qui a trop lu de romans d'amour et elle est complètement stupide et elle se fourvoie? C'est qui, Madame Bovary? C'est là où c'est pour ça que je pense qu'on est en littérature. S'il y en a une définition, c'est sans doute que on peut en débattre, et vous êtes manifestement pas d'accord, vous avez l'impression, je vois à vos yeux que vous trouvez que Titus, c'est plutôt un enfoiré, ça se discute. Et c'est ça, la créativité, elle est là, en fait. Mais il faudrait laisser aux enseignants l'espace d'être créatifs, et les programmes actuels, les normes actuelles, les contraintes actuelles, rendent ça quand même assez difficile. Et les formations actuelles qui sont pas suffisantes aussi à ces questions-là.
France Culture, être et savoir. Louise Touret.
Alors, on a parlé de Madame Bovary et de Bérénice, mais évidemment, le sujet d'aujourd'hui, c'est la littérature à l'école et la littérature jeunesse à l'école. Quelle est sa place, finalement? On s'interroge à l'occasion du Salon du Livre de Jeunesse, vous le savez, à Montreuil. Et on va se poser la question avec Christophe Léculé, qui est formateur en lettres dans le premier degré à l'INSPE, c'est-à-dire l'Institut de formation des professeurs de l'Université Paris-Est Créteil. Il est spécialiste de ce sujet, en particulier pour la maternelle. Il a publié Au cœur des albums. C'est un guide pédagogique de lecture en maternelle publié chez Attier en 2020. Et on s'est demandé ensemble quels étaient les grands marqueurs de l'institutionnalisation de la littérature jeunesse à l'école. Est-ce qu'on pouvait, par exemple, se donner des dates ?
Si je reviens aux dates plus récentes et qui sont marquantes, je dirais 1984, c'est l'introduction des BCD dans les écoles. Et puis ensuite, il y a eu une période extrêmement faste. Elle a commencé dans les années 90 et elle était au niveau national et pas qu'à l'école, puisqu'en fait, le but, c'est de démocratiser les livres et que tous les enfants puissent avoir des livres dans les mains, y compris à l'école, pour les luttes contre les inégalités, etc., etc. Et c'est l'époque où Daniel Pennac a écrit comme un roman, c'est-à-dire qu'on peut lire comme on veut, où on veut, on peut arrêter de lire, on peut lire à tue-tête, etc. Et l'école était dans cette dynamique d'offre de la lecture. Et puis, on a eu ensuite un âge d'or avec le programme de 2002, où là, des chercheurs, des chercheuses, notamment Catherine Tauvron, a lancé toute une dynamique nationale sur le fait qu'on allait arrêter de mettre les enfants seulement dans des bains de lecture, mais qu'il fallait aussi les aider à comprendre. Et de là, beaucoup de chercheuses et de chercheurs, de didacticiens, didacticiennes, se sont mis à travailler sur ce que c'est qu'apprendre à comprendre, de proposer des méthodes. D'un côté, on va essayer de développer le goût de lire, et de l'autre côté, on va apprendre à lire, et apprendre à mieux lire, mais pas seulement apprendre à mieux lire, également apprendre à interpréter, apprendre à comprendre, apprendre à se questionner sur les ouvrages de littérature. Voilà à peu près où on en est. Il y a eu des dynamiques également par rapport à la constitution de listes ou à ce genre d'outils qui pouvaient aider les enseignants.
Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait que ce soit une politique publique, une politique scolaire nourrie par la recherche avec une certaine idée de ce que c'est que de lire. Donc, est-ce que la littérature et tout ce qu'elle contient de plus presque intime peut s'insérer dans les programmes de l'école, en particulier primaire?
C'est l'essence de la littérature, en fait. Et à l'école, elle a sa place pleinement. La question est quel lecteur on veut former. On va former un sujet lecteur, c'est-à-dire un lecteur qui est à la fois subjectif, c'est ce dont vous parliez, c'est-à-dire quelqu'un qui va parler de lui, qui va avoir des projections, chacun d'entre nous, qu'on voit un film, qu'on écoute une histoire, qu'on lise un livre, à ses propres projections personnelles qui nous appartiennent et fort heureusement qui n'appartiennent qu'à nous. Et l'un des buts de l'école, c'est de pouvoir, et je pense de plus en plus, essayer de développer cet aspect-là, c'est-à-dire quel rapport les enfants, les jeunes ont avec le livre, quel rapport intime ils ont avec le livre, quelle place ils ont. Et là, il y a tout un tas de démarches à mettre en place qui sont extraordinaires, comme développer des podcasts, créer des lectures en classe, créer des vidéos qui expliquent nos engouements. Là, j'évoque exclusivement la littérature de jeunesse qui va permettre de vivre, de ressentir, d'avoir des émotions intimes, personnelles, mais aussi collectives, qui va permettre de développer des systèmes d'empathie, etc., etc. Et puis, de l'autre côté, on a un sujet lecteur qui est analytique et qui va questionner, qui va apprendre à interpréter, qui va apprendre à analyser, qui va apprendre à regarder quelles sont les valeurs, à développer son esprit critique, qui va aussi regarder comment est fabriqué un ouvrage, un album, un texte, pas en termes d'édition, mais en termes de construction esthétique, en termes de forme. Alors à l'école primaire, on va pas faire une analyse page par page, évidemment, mais il est intéressant pour construire une culture littéraire de montrer aux enfants, moi j'appelle ça des aspérités, c'est-à-dire des petites choses qui ressortent, une figure de style éventuellement particulière, mais même avec les plus jeunes.
Christophe Léculé, bon, sur tous les sujets, on a des biais, vous êtes un lecteur, moi j'adore lire, j'ai eu des BCD dans mon école, mais on sait que c'est pas le cas de tous les enfants, alors comment on fait avec ces méthodes-là pour faire lire plus d'enfants, pour pas que ce soit réservé aux enfants, par exemple, dont les parents sont déjà lecteurs, qui ont des bibliothèques chez eux, qui sont avantagés au départ. Et on sait que la lecture, c'est une pratique assez déterminante, que c'est une pratique qui enrichit beaucoup les élèves. On n'est pas obligé d'être un grand lecteur pour réussir à l'école, mais c'est pas mal quand même.
Il y a des fortes inégalités en dehors de l'école, on le sait. Et en fait, le seul lieu où vont tous les enfants, c'est l'école. Donc à partir de ce moment-là, c'est à l'école de jouer pleinement son rôle pour permettre à tous d'accéder à des savoirs culturels et à des savoirs livresques. Il y a très très peu d'enfants qui rentrent chez eux le soir, même dans des milieux privilégiés, en disant « je vais me mettre sur mon lit et je vais me lire un bon bouquin ». Je pense que l'école, finalement, a trois objectifs. Elle a un objectif de construction d'une culture littéraire pour tous, pour toutes, avec des accès multiples, divers, variés, pour que tout le monde y trouve son compte, avec des éléments qui sont des éléments de classique, du patrimoine, et des éléments totalement nouveaux qui sont dans des dynamiques culturelles actuelles. Et puis ensuite, l'école doit, et d'un côté, inciter les élèves à lire, et de l'autre côté, les initier non seulement à apprendre à lire, mais aussi à apprendre à comprendre, et pour la littérature, à apprendre à interpréter. Finalement, en dehors de l'apprentissage de la lecture, qu'ils puissent découvrir des œuvres, mais aussi qu'ils aient du temps pour les lire, se les approprier. Et je pense que quelque chose est très marquant, c'est de pouvoir vivre des grands événements autour d'un livre, autour d'un auteur, d'organiser des grands jeux, d'organiser des rallyes, des rencontres, bien sûr, avec des auteurs. Surtout qu'à l'école primaire, ces rencontres, elles seront plutôt a posteriori. Et donc mettre en place de grands événements qui vont marquer affectivement, émotionnellement, culturellement les enfants pour qu'ils aient envie d'en croquer à nouveau en fait. Et ça elle ne peut se faire qu'avec des médiateurs qui sont des médiateurs adultes et qui vont en l'occurrence là être les enseignants.
Ça veut dire que ces enseignants, on peut les former à la littérature jeunesse. En quoi cela consiste-t-il ?
Eh bien, en fait, on se rend compte que les génération de nouveaux enseignants, en tout cas ceux que je rencontre, n'ont pas une culture littéraire de littérature de jeunesse extrêmement développée. Moi, à chaque cours, à chaque formation, je commence toujours par une lecture d'un ouvrage pour qu'ils le découvrent, ce que j'appelle des lectures répertoires. Certains appellent ça des lectures offertes. Par exemple, un extrait de Mandela et Nelson, qui est un roman qui se passe en Tanzanie, dans une Tanzanie contemporaine, pas une Tanzanie ancestrale avec des sagaies, des huttes, mais vraiment des jeunes actuels qui font une équipe de foot. On a des livres qui permettent d'accrocher les enfants aussi. Je pense que Roald Dahl fait partie quand même des grands auteurs qui font vraiment partie de la tradition, même scolaire en fait.
Lequel est votre préféré ?
En ce moment, je travaille sur
Mathilda.
Moi aussi. Mais en fait, je travaille sur Sacrée Sorcière parce que je travaille sur l'adaptation de Pénélope Bagieu.
En BD.
Sinon, sans être très original, je pense que Charlie la Chocolaterie, ça c'est mon petit côté gourmand.
Vous avez parlé tout à l'heure, Christophe Léculé, de listes. C'est quoi ces listes, en fait ? Vous les proposez aux enseignants ? C'est obligatoire ? Enfin, voilà, comment ça circule dans l'éducation nationale ?
Finalement, dans les années même 90, quand on a voulu vraiment développer la lecture pour tous, l'éducation nationale a commencé à faire des listes. Et puis en 2002, il y a des listes officielles qui ont commencé à apparaître et qui ont été renouvelées tous les 5 ans. Jusqu'en 2018.
Donc par classe
C'est par cycle.
Ok.
Et ensuite par niveau de difficulté et également à l'intérieur sont représentées la diversité, c'est-à-dire les albums, les romans, les contes, les fables, les poésies, le théâtre, la bande dessinée. Donc on a des catégories de ce type-là et des sélections chez tous les éditeurs qui peuvent exister. Donc ces listes-là contiennent 300 ouvrages en fait pour le cycle 3, pour le cycle 2, pour le cycle 1. Donc, et elles ne sont pas obligatoires.
Mais ces listes, où est-ce qu'on se les procure ? Est-ce que les enseignants les connaissent ? Parce que la circulation de l'information, ce n'est pas toujours aisé dans l'éducation nationale. Alors, est-ce que c'est les enseignants férus de lecture qui vont au centre spécialisé ? Je sais qu'il y en a un à Paris, dans le 13e arrondissement, par exemple. Mais est-ce que tous les enseignants y ont accès ? Ou ça, vous les trouvez ?
Alors, elles sont sur EduSCOL, qui est le site où sont les documents de ressources pédagogiques. Maintenant, les enseignants les utilisent ou ne les utilisent pas vraiment, parce qu'en fait, en général, les enseignants regardent ces listes-là et cherchent les livres qu'ils connaissent déjà pour pouvoir se dire « tiens, il y en a un que je connais ». Et en fait, ce qu'on constate, c'est deux choses. La première, les éditeurs s'en emparent et les éditeurs valorisent les éléments officiels. Et les enseignants les utilisent sans savoir réellement qu'ils étaient dans les listes officielles. Et ça, c'est un circuit qui fonctionne extrêmement bien. Après, il y a les enseignants qui vont les chercher directement. Et puis, ces dernières années, à partir de 2018, on a écrit des notices pour le cycle 3, c'est-à-dire pour chacun des 300 livres, ça nous a pris 2 ans, on a écrit des notices
pédagogiques
pour analyser l'ouvrage en termes de lecture experte, qu'est-ce que nous raconte cet ouvrage, et puis pour donner des pistes. On a écrit exactement aussi les notices pour le cycle 2, ça nous a également pris 2 ans, mais malheureusement, elles ne sont toujours pas en ligne et peut-être qu'elles n'y seront jamais.
C'est-à-dire
qu'en fait, ce travail, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu le Covid. Déjà, je pense que ça a mis un frein d'arrêt. Et en ce moment, on est quand même plutôt en pause par rapport à la littérature au niveau de la dynamique, je pense, de l'éducation nationale. Et j'espère que tout repartira vers l'âge d'or.
Attendez, on va éclaircir ce point. Parce que c'est parce que les ministres changent souvent qu'on n'a pas de diffusion de ces savoirs sur le livre jeunesse à l'école ?
Je veux dire que oui, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est logique. Quand un ministre arrive, il s'empare de projets, il s'empare de priorités. Toutes les personnes qui travaillent pour le ministère s'engagent dans ces nouvelles priorités. Et la priorité, pour l'instant, n'a pas été la littérature. Même si on retrouve la littérature dans les nouveaux programmes qui sont sortis.
La littérature jeunesse.
De jeunesse. Il y a écrit patrimoine et littérature de jeunesse. Mais à l'école primaire, la littérature patrimoniale, c'est une littérature de jeunesse.
Je ne sais pas si vous avez vu le film « Apprendre » de Claire Simon, mais dans ce documentaire assez génial, on voit des professeurs des écoles faire de la lecture à voix haute à des élèves qui sont assez grands, peut-être CM1, CM2, faire de la lecture de textes mythologiques comme ceux de Muriel Sack. C'est lire
pleinement. Pleinement. On commence avec les tout-petits, avec des comptines qui sont de toute façon une forme de culture et de littérature orale. Finalement, c'est Daniel Pénac qui était l'un des premiers à en parler et ça s'est généralisé notamment grâce à lui. Lui lisait, je crois, Le Parfum de Patrick Susskind à ses élèves de terminale. Et en fait, le but, c'est d'engager les élèves vers l'émotion, vers le plaisir de lire, le plaisir d'entendre, le plaisir de se raconter des histoires. Et donc, cette lecture qui est essentielle de l'enseignant, je pense, elle peut se compléter par les quarts d'heure de lecture, elle peut se compléter par les cercles de lecture. En ayant fait beaucoup d'expérimentations en
classe...
C'est
les book clubs, un petit peu.
Oui, c'est ça. On appelle ça comité de lecture, cercle de lecture, etc. Et en fait, les enseignants peuvent se donner beaucoup de mal et se donnent énormément de mal. Mais en testant avec beaucoup d'écoles depuis plusieurs années, on se rend compte que l'un des leviers absolus sont les interactions entre élèves et entre pairs. C'est-à-dire à partir du moment où ils commencent à se dire « Oui, mais moi, j'aime bien ce livre-là. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec toi. » Et qu'on arrive à créer cette dynamique. « Moi, j'ai lu ça, vraiment, pour moi, ça m'est tombé des mains. J'adore. » Alors, les copines et les copains disent « Bah, attends, passe-le-moi pour le coup d'après. » Et on arrive à vraiment à créer des dynamiques culturelles plus fortes que celles que mettent en œuvre les enseignants par les interactions. Et là, je parle d'écoles qui sont en REP+, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. C'est par les enfants, c'est par aussi la présence des enseignants au sein des lieux de vie des enfants et de la famille, par exemple. Actuellement, est en train de se développer de plus en plus dans de nombreuses écoles des nuits de la lecture. Et je l'ai pu voir dans les quartiers extrêmement défavorisés, où la directrice décroche son téléphone quand les parents n'ont pas répondu au message en disant « Mais venez, vous allez voir, etc. » Et où on a des temps de partage de lecture ou de narration dans les classes avec des parents qui non seulement viennent soit partager des activités, de faire des gâteaux en pain d'épices parce qu'ils sont au CP, soit d'écouter des lectures, des poésies des plus grands, mais aussi eux-mêmes de lire dans leur langue. Et tout un tas d'éléments de partage comme ça que j'ai pu voir. Et c'est quelque chose qui est en train de se développer autour de moi en ce moment et dans les écoles, de plus en plus, on découvre, je suis sollicité pour pouvoir aider les enseignants à ce genre de manifestations et qui sont vraiment extrêmement intéressantes.
C'est trop sympa, la littérature jeunesse à l'école. Un grand merci à Christophe Léculé, dont je rappelle qu'il est formateur en lettres pour le premier degré à l'Université Paris-Est Créteil. Merci également à Laetitia Perret, didacticienne du français, qu'on a entendu en première partie d'émission. Ce numéro était consacré donc à la littérature jeunesse en particulier. C'est un de mes sujets préférés, vous l'aurez peut-être compris. J'ai un peu de temps, alors je vous donne le sujet du prochain numéro d'Être et Savoir. On va parler de la laïcité et les jeunes, avec notamment Philippe Portier et puis avec l'équipe de la revue L'École des Parents, qui consacre un dossier assez passionnant, je dois dire, à ce sujet, la laïcité, non seulement à l'école, mais pour nous, citoyens, avec nos enfants. Comment on s'en parle aujourd'hui, dossier très complet, donc je vous invite à lire, si vous voulez par exemple préparer l'écoute de l'émission, on sait jamais. Je remercie l'équipe d'Être et Savoir, Avril Ventura, adjointe à la production, et François Richer à la réalisation.